une histoire particulière. Mais où est donc passé le maréchal? C'est la question que vous vous êtes posée, j'en suis sûre, hier, en écoutant le premier épisode de notre histoire du week-end. Alexandre Hérault et Gilles Davidas nous ont emmenés au cimetière de Lisle-Dieu, où repose le maréchal Pétain, le vainqueur de Verdun. Son attitude collaborationniste durant la Seconde Guerre mondiale lui a interdit les honneurs d'être enterré à l'ossuaire de Douaumont, lui qui rêvait d'être entouré de ses poilus. Mais dans la nuit du 18 au 19 février 1973, des pieds nickelés décident d'honorer cette mémoire et de ramener les restes du maréchal à Verdun. Des restes qui pèsent tout de même 800 kilos. Retournons tout de suite dans le récit de cette folle cavale.
Maréchal, les voilà. Ou l'improbable permission du maréchal Pétain. Par Alexandre Hérault et Gilles Davidas.
Le cercueil de Philippe Pétain a disparu du cimetière de l'Île-Dieu. Il a été enlevé par des inconnus dans la nuit de dimanche à lundi.
Est-ce que la description du cimetière qu'on vous avait faite correspondait à celle que vous allez découvrir, Michel Dumas?
Pas tellement. Parce que j'avais prévenu Maître Clignancourt que, évidemment, pour ouvrir un caveau, on faisait quand même un peu de bruit. Alors j'ai dit, il faudrait quand même que ça soit pas trop près des habitations. Il me dit, ne t'inquiète pas, le cimetière est au milieu des champs. Quand je suis arrivé, la gendarmerie avec les transparentes fenêtres, on la voyait parfaitement, pas loin du monument du maréchal, et il y avait une maison à côté qui devait être à 15 mètres. Donc c'était pas du tout le milieu des champs.
Donc vous découvrez un endroit plutôt inconfortable pour pouvoir opérer discrètement.
Oui, c'est le moins qu'on puisse dire, quoi. Mais enfin, fallait le faire. Et alors le monument était bizarre, parce que normalement, vous savez, la pierre tombale qui est sur le soubassement, et il y a un joint. Et là, j'essaie de rentrer la baramine, ça répondait pas bien.
Les problèmes commencent.
Alors les problèmes commencent, il y avait donc ce magnifique clair de lune, on entendait la mer qui clapotait derrière, c'était assez grandiose. Et bien les choses commençaient, bien, et je dis au marbrier, Michel Dumas donc, c'est toi qui es le professionnel, comment commence-t-on? Comment attaque-t-on? Alors il fait le tour, il me dit bon, c'est un joint ci, c'est un joint là, on va être obligé d'attaquer la baramine. Je lui dis vas-y. Alors il avait une énorme baramine qui devait peser au moins 12 kilos, une grosse baramine, et il lève le bras, et là le silence en attendait, et un coup dans le joint entre le couvercle et le socle, la ressentie. Un bruit énorme, comme un coup de gong, et on s'est imaginé que tous les gens de l'île étaient assis sur leur lit en train de dire « qu'est-ce qui se passe dans le cimetière ?»
La peur s'empare des hommes, alors?
Pas tout de suite, mais très vite, très vite. J'ai vu Dumas, hésiter, et me dire « on n'y arrivera pas, c'est trop dur, ça rentre pas, c'est pas possible, c'est dur comme du granit, etc. etc. » Et il se trouvait de bonnes raisons pour ne pas continuer. Ah, je lui dis, écoute,
un chien avait aboyé.
Oui, alors au coup de gong, le chien a aboyé, effectivement, et ce qui nous a un petit peu glacé pendant un moment, il va se taire et non pas réveiller tout le village. Bon, ça a duré quelques longues secondes, et le chien s'est tué.
Et comme j'ai vu que le dessus du monument ne se décollait pas du soubassement, j'ai fait le tour, et j'avais planté la baramine. Là-dessus, le Breton prend la baramine et pam, il met un grand coup dans le devant de la tombe et me descend le devant de la tombe. Bon, je dis, bon, c'est plus la peine de faire le tour, maintenant il n'y a plus qu'à attaquer par devant.
Un coup de maître, vous vous dites.
Comment?
Un coup de maître.
Ah oui, ça, pour ça, c'était un coup génial. Hein.
Je lui ai arraché la baramine des mains, et j'ai envoyé un, deux, trois grands coups dans le caisson, en dessous du couvercle. Et au troisième coup, la barre est entrée, non pas comme dans du beurre, mais comme une roquette explosant dans un mur de béton. Donc c'était entré, c'était gagné, parce que je sentais... Même chez le dur briscard de légionnaire ou le révolutionnaire yougoslave, je sentais un flottement déjà. Et Dieu sait comment ça aurait pu tourner. Alors lorsque la barre est entrée, j'ai senti que tout revenait. Parce que j'ai déjà dit que je crois que c'est à ce moment-là que tous les gens qui étaient là ont pris conscience de l'importance, pas de la gravité, mais de l'importance de ce que nous étions en train d'accomplir. Cette barre étant entrée, le courage est revenu, et là, Dumas s'est repris.
Bon, je reprends la main, je lève, ça passe, bon. Alors, on ouvre le caveau, ça s'est très bien passé, on voit le cercueil.
Spontanément, je me suis mis au garde à vous, le légionnaire et le hongrois d'eux-mêmes, pas les autres, et j'ai crié « Maréchal, nous voilà », mais ce n'était pas du tout quelque chose de préparé, il n'y avait pas de public. c'était quelque chose de spontané qui m'est venu. C'est une concrétisation de ce que nous étions en train d'accomplir, si vous voulez. Et j'ai dit assez fort, à haute voix, Maréchal, nous voilà.
Je n'ai jamais vu un cercueil dans un état pareil. On aurait dit qu'il avait été inhumé la veille. Parce que c'est la main de Dieu, on ne sait pas. Mais enfin, il était impeccable. Alors là-dessus, je descends et je commence à ceinturer le cercueil. Parce que quand même, on ne sait jamais. Parce que en général, les cercueils se dégradent par le fond, parce que c'est la partie humide. Mais là, il avait été mis sur des tassons en bois, donc il ne touchait pas le fond. Donc le fond était impeccable. Mais quand même, par précaution, je mets les sangles. Les sangles de la ville de Paris, je ceinture à la tête, au milieu et aux pieds, je serre bien les sangles de manière qu'ils ne puissent pas s'ouvrir, qu'on allait relever, parce qu'après il faut quand même lever. Là-dessus, ils ont descendu les cordes avec les crochets dans les poignets et on a levé le cercueil. Mais il était très lourd parce que ça devait être un cercueil métallique, il faisait bien dans les 200 kilos. Enfin, on tire dessus, on le sort et on l'emmène dans la camionnette.
Hubert Massol. Une fois le cercueil du maréchal reposant cette fois-ci sur la camionnette qui allait essayer de le faire partir sur le continent,
restait à reboucher le caveau de façon à ce qu'il n'y ait pas de traces par la suite, parce que le but de l'opération n'était pas de se faire attraper tout de suite après. Il fallait donc que la chose soit secrète le plus longtemps possible, de façon à nous laisser le temps de retourner et de préparer la suite des événements. Je vous assure qu'il y avait une tension là aussi, parce que maintenant que la chose était accomplie, nos amis disaient « maintenant, il serait temps de s'en aller, maintenant, il y a une fébrilité là aussi ». Et donc les gens étaient un peu plus nerveux qu'au départ.
Il faut quand même refermer le caveau pour pas que ça se voit. Alors là-dessus, l'autre, comme il avait défoncé le devant du caveau, j'avais apporté du ciment pour faire qu'on appelle faire le joint, mais je craignais d'en manquer. Alors c'est pour ça que dans la camionnette, on a été chercher des journaux pour boucher les fentes. Et là-dessus, c'était un journal espagnol, mais enfin, on en reparlera après. Alors on a bouché les fentes, j'ai fait le joint, on a donné un coup de chiffon sur le monument, et un petit coup de râteau autour. Tout était prévu, impeccable. Là-dessus, la camionnette, il fallait la ressortir à l'envers puisqu'elle était rentrée en marche avant et le chauffeur était un peu sourd, comme je l'indique. Et alors faire de la manœuvre discrète dans un cimetière, braque, à droite, plus à gauche. Enfin, on a sorti la camionnette et pour pas faire trop de bruit, comme ça descendait, on l'a poussé pendant un peu de temps jusqu'à la descente. Alors là-dessus, on arrive au port, on s'installe, on met la camionnette sous, enfin il y avait des lampadaires pour le sur le quai et nous, on retourne chez Nolo. Et monsieur Nolo, lui, et dire, écoutez, en si peu de temps, j'avais dû mettre pour l'aller-retour une heure et un quart. Ce que tu dis donc bien. Bon, c'est une bonne performance. Hein. Bon, il a dit, oh, c'est formidable, je vous offre le champagne. Et il nous a offert le champagne.
Effectivement. Dans une certaine euphorie.
Nous jurons, nous petits gars, de servir et de suivre les pas. Mais ça, nous voilà.
Calmer d'ailleurs, parce que quand il était content, il chantait fort et c'était pas le moment d'attirer l'attention non plus. Et puis au moment de l'embarquement, nous sommes repartis, naturellement. L'un de nous a pris la camionnette, elle est montée sur le bateau comme deux ou trois autres voitures.
4 heures du matin.
Oui, avec une grue, elle était portée comme ça, elle était mise sur le pont du bateau. Et nous sommes rentrés, montés sur le bateau avec les autres voyageurs qui retournaient sur le continent.
Le but, une fois arrivé à Fromentine, là-bas, sur le continent, c'était de bénéficier d'un relais, je crois.
Oui, j'avais rencontré quelque temps auparavant, lors de la phase de préparation, un certain monsieur Bouxe de Casson, qui était marquis de son état. Et il m'a dit, mais je serais ravi de vous offrir l'hospitalité. J'ai mon château à Chaland, château historique, m'a-t-il dit, qui a reçu Richelieu et peut-être même Louis XIII, château historique. Voilà.
Il y avait un lieu de rendez-vous, oui, chez Bout de Casson, au château de la Belle au Bois Dormant.
Un ancien député vendéen, ministre de l'Information à Vichy.
Mais vous savez, moi, je ne savais pas du tout son nom, et je ne savais pas le nom du château. Je l'ai su qu'après. Enfin, on rentre dans le château, personne. Bon, enfin bref, on poirote là, un moment, personne. Alors moi, je dis, bon, alors ils me disent, il doit y avoir un rendez-vous là. Je dis, bon, bah, disons, s'ils veulent aller à Douaumont, ils sont mal partis, enfin bref. Alors, on s'attardait, disons, dans le secteur, on faisait rien. Bon.
Vous sentez que l'opération...
Ça c'était plus... Et alors, d'un seul coup, ils disent, bon, on part à Paris.
Et tout de suite après... nous entendons la radio de bord que
Bonsoir, au micro Jean-Claude Bourret. Des barrages de gendarmerie fouillent les camionnettes dans la région de Douaumont. On pense en effet que ceux qui ont enlevé le cercueil du maréchal Pétain tenteront peut-être de déposer à la faveur de la nuit le cercueil à l'ossuaire de Douaumont où reposent environ 300 000 soldats français morts pendant la bataille de Verdun en 1916. L'annonce de cette profanation a provoqué la stupéfaction. Bernard Breton, président de l'association On ne passe pas des anciens combattants de Verdun, a donné son sentiment à Jean Sartini.
Je vous dirais franchement que j'étais stupéfait en apprenant cette nouvelle. J'aurais aimé qu'un jour le maréchal Pétain revienne à Douaumont, mais pas dans des conditions pareilles.
Et le maréchal Pétain sera-t-il quand même enterré à Douaumont?
Ben, je l'espère. Ils ne vont tout de même pas le ramener à l'île-Dieu. Et puisque le coup est fait, autant vaudrait maintenant qu'on en profite pour le mettre à Douaumont.
Comment les profanateurs ont-ils réussi à soulever la dalle de 800 kilos et à extraire le double cercueil qui contenait la dépouille mortelle du maréchal Pétain? Une seule chose est sûre, ils étaient plusieurs. Le gardien du cimetière a donné l'alerte lorsqu'il a vu que la lourde dalle n'était pas remise exactement à sa place. Au début, on a cru à un canular de mauvais goût, mais les personnalités qui se sont rendues sur place pour vérifier que la sépulture n'avait pas été violée ont été frappées de stupeur lorsqu'elles ont constaté le contraire.
Et donc, il fallait changer effectivement son fusil d'épaule tout de suite.
Pourquoi? Parce que ce que vous apprenez aussi, c'est que des barrages sont mis
oui,
en passe.
Parce que, étant donné que le journaliste à la radio nous disait que la tombe a été profanée, que le préfet était prévenu, que toutes les autorités étaient sur place et que les CRS avaient barré toutes les routes menant à Verdun. Alors donc, c'était pas la peine d'aller dans la souricière, de se jeter dans la gueule du loup. Il fallait absolument cette opération, il fallait que j'en garde l'initiative. Parce que si j'avais été arrêté sur le bord de la route, personne n'aurait été là pour le dire, ça aurait été fait de façon discrète, on aurait ramené le maréchal d'où il venait en catimini, et ça aurait été un fait divers de trois lignes dans les journaux. C'était pas le but de l'opération.
Et ils ont retrouvé le fameux journal espagnol. Et comme il y avait...
Il avait servi à colmater...
À boucher les fentes qui étaient trop grandes. Et alors ils ont retrouvé, qui était là tout à fait par accident, hein, il s'était retrouvé dans la camionnette parce que bon, c'était une marchande de 4 saisons, ou approximatif, elle avait du papier pour se faire de l'emballage, bon, parce qu'il avait trouvé un journal espagnol. Bon, alors là-dessus, immédiatement, ils disent ça y est, ils l'emmènent. Alors ils ont dit trois solutions, il y en a qui l'avaient vu, ils pensaient qu'il partait en avion. C'était le luxe. Après, il y en avait qui pensaient qu'il partait par la mer, et d'autres qui partaient par la route. Et alors ils ont dit...
On a même parlé d'un sous-marin, figurez-vous, à l'époque. Ouais.
Ah ben c'est que vraiment on avait les moyens. Et alors là-dessus, il y avait un ancien collaborateur qui est en Espagne. Et je ne sais plus comment il s'appelait. Ils ont pensé que peut-être on l'emmenait chez lui. Et à ce moment-là, ils ont fermé la frontière espagnole.
C'est vrai qu'on pensait, dans les hypothèses qui sont alors levées, à un commando étranger, franquiste, pourquoi pas,
hein, ben, bien sûr, pourquoi pas, après tout.
Mais on parlait de toutes sortes de choses, un coup de force même des communistes, on évoquait...
Ah, il pouvait... L'histoire de Voltaire qui avait disparu, l'histoire de Mussolini, tout ça, on ne savait pas, parce qu'on ne savait pas si c'était des gens qui étaient, disons, favorables au maréchal Pétain, ou des gens qui étaient ça pour faire purement et simplement de la profanation.
Personne n'en est encore revenu à l'Île-Dieu, ni à La Roche-sur-Yon, préfecture de la Vendée, ni ailleurs, nulle part en France. Ce qui est devenu le cercueil, personne aujourd'hui n'en sait rien. Le nombre important de touristes qui se sont rendus à l'Île-Dieu pendant le week-end a permis que personne ne s'aperçoive de rien. Peut-être le cercueil est-il reparti par la chaussée qui relie l'île au continent, peut-être a-t-il été embarqué sur un mystérieux yacht qui mouillait au large de l'île depuis plusieurs jours. Peut-être encore est-il enfoui dans le sol de l'île ou caché dans une maison. En tout cas, Maître Isorni, qui fut le défenseur du maréchal Pétain, émet une hypothèse. Ce pourraient être des partisans de l'ancien chef de l'État français qui ont tenté un coup désespéré.
Je suis stupéfait, mais cependant, des bruits étaient venus jusqu'à moi d'une manière anonyme, par des coups de téléphone. On me disait que quelque chose se préparait à l'Île-Dieu, et j'avais, dans la mesure où on peut intervenir dans l'anonymat, j'avais dit « mais ne faites pas une folie pareille ». Et puis je n'avais plus de nouvelles et je croyais que ceux qui avaient projeté d'entreprendre cet enlèvement d'un cercueil et du cercueil du maréchal Pétain avaient renoncé. J'apprends aujourd'hui que non seulement ils n'ont pas renoncé, mais qu'ils ont réussi. C'est la violation d'une sépulture, c'est-à-dire un délit prévu par le code pénal. C'est l'enlèvement d'un corps.
À votre avis, qui a commis cet acte? Ce sont des partisans de la translation du corps?
Il est possible que ce soit des partisans déçus par le fait que le maréchal Pétain n'ait pas été transféré plutôt à Douaumont. Il est possible que ce soit des agents provocateurs résolus par cette manifestation audacieuse à s'opposer à toute translation solennelle à Douaumont. Tout est possible.
Vous écartez l'action d'antipétiniste?
Je n'ai pas le droit de l'écarter, mais ça n'est pas l'hypothèse à laquelle je crois le plus.
Que le cercueil soit resté dans l'île, qu'il ait été enlevé par mer, et non bien sûr par la route comme un lapsus me l'a fait dire, toujours est-il que cette affaire provoque encore des passions étonnantes. Et les services de sécurité ont été renforcés autour de l'ossuaire de Douaumont, où l'on peut penser que les personnes qui ont enlevé le cercueil du maréchal Pétain ont peut-être l'intention de l'amener.
Ça a été l'effet cascade, c'est parti du gardien de cimetière, en passant par le maire, par l'officier de gendarmerie, par le préfet, le ministère de l'Intérieur, tout le monde a été, et l'Élysée et Matignon, tout le monde l'a su. Et donc, on avait donc toutes les polices de France à nos trousses, tout de suite après, c'est ce que m'a dit plus tard le directeur général de la police.
Et vous, il faut improviser alors, Hubert
Lassalle? Là, il fallait improviser, hein, c'était le plan n'était plus du tout le même, et je me suis dit, il faut du temps pour réfléchir, et il ne faut pas s'affoler. J'ai dit, nous allons aller à Paris, là, nous aviserons, nous trouverons un endroit pour le mettre à l'abri, en quelque sorte, en attendant de trouver une solution. Hein, il fallait improviser, il ne fallait surtout pas se faire attraper. C'était surtout ça le problème, mon premier souci. C'est ce que nous avons fait. Nous sommes allés sur Paris tranquillement. J'en ai profité pour faire une petite descente triomphale au maréchal sur les Champs-Élysées, comme en 1919. On lui devait bien ça.
Bonjour. Les titres de cette édition de 13h, campagne électorale, début des interventions ce soir sur France Inter et à la télévision de 20h30 à 21h15. Toujours le mystère autour de la disparition du cercueil du maréchal Pétain.
Philippe Tesson, souvenez-vous, après la surprise, la réprobation est unanime. Une petite revue de presse de l'époque, de ce 20 février 1973, nous en apprend beaucoup. Georges Marché se prononce, réhabiliter Pétain, ce serait réhabiliter la trahison. Pierre Messmer, alors Premier ministre, dit qu'en dehors de tout problème historique ou politique, l'ensemble des Français se trouve devant l'utilisation d'un procédé qui, sur le plan moral, est particulièrement odieux. Le Monde, par l'intermédiaire de Pierre Viançon-Ponté, déclare qu'il s'agit d'un acte réalisé par de dangereux imbéciles. Et sous votre plume, Philippe Tesson, dans le journal Combat, vous titrez, avec un jeu de mots habile, un cadavre en campagne.
Moi, je me rappelle, surtout à la relecture, avoir écrit ce papier, qui était un édito de quotidien, sur le champ, à chaud, c'est-à-dire le soir même de l'événement. Et comme je faisais un journal politique, si je me rappelle bien, j'étais un petit peu dans l'opposition, c'était Combat, on n'était pas très favorable à Pompidou. Un cadavre dans la campagne, ça veut dire ça. Ça veut dire, c'est un fait politique dans un contexte politique, puisqu'on est à, je sais pas, 15 jours, 3 semaines d'une élection législative qui est assez tendue. Hein. On n'est pas très cher de la majorité de droite. Dans les sondages, j'ai été assez défavorable. Bon, il se trouve que par la suite, les choses allaient se normaliser, finalement la majorité allait s'en sortir. Mais bref, le soir même, 15 jours avant l'élection, un fait divers comme celui-là avait une dimension politique. Et c'était de mon devoir et de ma fonction, chacun joue son rôle hein, dans ces cas-là, de l'exploiter politiquement. Un cadavre dans la campagne, ça voulait dire, on savait pas que c'était des oiseaux qui avaient fait le coup le soir même. Un cadavre dans la campagne, ça voulait dire, voilà des mecs qui font pression par une action spectaculaire sur le pouvoir en place, qui était le pouvoir de droite, pour l'embarrasser, puisque depuis des mois, voire depuis des années, il y avait quand même pression sur Pompidou pour qu'il décide le transfert de Pétain à Douaumont.
Il fallait prendre un contexte qui fasse que les choses éclatent au grand jour. Si on avait fait ça en catimini et discrètement, ça n'avait aucun intérêt. Il y avait un petit côté publicitaire, effectivement, marketing dans cette affaire-là, bien sûr, c'est le côté professionnel qui ressortait, mais au service d'une noble idée. Et ce qui comptait, c'était de réussir. Alors il faut donc se donner les moyens de l'époque.
Là, vous appelez ces journalistes?
Je les ai appelés.
Une seule phrase, avec une voix
dissimulée? Une seule phrase, une voix de circonstance, puisqu'on m'avait appelé dans le journal un commando à enlever, et je me suis annoncé ici le chef du commando qui a délivré la dépouille du maréchal Pétain. Si vous voulez plus d'informations, rendez-vous au café Le Cristal, avenue de la Grande Armée. Et je dis, c'est terminé, pour donner un petit ton militaire à la chose. Et j'entendais un silence. Ah bon, bon, on arrive.
Interactualité Magazine, édition du soir, Dominique Bomberger.
Bonsoir. Le cercueil de Philippe Pétain est entre les mains de l'Alliance républicaine que dirige, d'un membre de l'Alliance républicaine que dirige Maître Tixier-Vignancourt. C'est ce qu'a affirmé M. Hubert Massol, qui s'est présenté à 17h cet après-midi à quelques journalistes comme le chef du commando qui a enlevé le cercueil de Philippe Pétain à l'Île-Dieu. Hubert Massol a parlé 15 minutes avant d'être arrêté par les hommes du commissaire Poisblanc.
Je dis que le cercueil est en notre possession et que nous le tiendrons dans ce lieu jusqu'à ce que le président de la République nous fasse parvenir une lettre dans laquelle il s'engage personnellement à ce que le corps du maréchal Pétain soit entreposé dans une crypte des Invalides dans l'attente de la réhabilitation et des translations des cendres à Douaumont.
On a eu le temps de parler quand même 10 minutes, 10 bonnes minutes, c'est quand même pas mal. Et au bout d'un moment, effectivement, j'ai entendu les sirènes des voitures de police qui arrivaient, un grand brouhaha, des motos, des voitures qui montaient sur le trottoir, les types qui sortaient en claquant les portières, mitraillettes à la main, etc. Le commissaire qui commandait l'opération s'est avancé et il m'a dit « Je suis le commissaire Intel, vous êtes Monsieur Massol ». Vous savez pourquoi nous sommes là, textuellement, il m'a dit.
Vous êtes conduit tout de suite au sein du 36 quai des Orfèvres à la brigade criminelle, oui, où là, les entretiens vont, l'interrogatoire va très rapidement, même s'il conserve un ton cordial, être axé sur un seul point, rendez-nous.
Rendez-nous-le.
La conjuration de ceux que Pierre Viançon-Ponté avait baptisé des dangereux imbéciles prit donc rapidement fin au bout de 3 jours de traque policière, il est vrai, intensive, et cette reddition sous forme de happening médiatique d'Hubert Massol. Les 5 complices du chef du commando avaient tous été arrêtés la veille. Le numéro d'immatriculation de l'estafette loué, cela ne s'invente pas, par Madame Bosch, et qui servit de demeure éphémère à la dépouille du maréchal Pétain pour son transfert mouvementé, dont nous ne pouvons pas ici vous livrer tous les détails, ce numéro livra rapidement ses secrets à la police, sans parler des éventuelles balances, comme il est d'usage dans pareille aventure. Le polar devait donc cesser. Il était urgent d'en écrire l'épilogue. Le chef de l'APJ recevait ses consignes directement du ministre de l'Intérieur, Raymond Marcellin, lui-même pressé par le Premier ministre, Pierre Messmer, qui mesurait l'impatience et la gêne du président Pompidou. Une fois arrêté, Hubert Massol n'eut qu'un seul souci, ne pas perdre la face et tenir tête aux inspecteurs de la brigade criminelle en leur imposant ses conditions pour leur livrer le cercueil si convoité. Lui seul, en effet, connaissait le lieu de la planque. Un garage de la banlieue nord parisienne fut l'ultime étape de ces 3 jours de maraude de la folle équipe. Ultime ? Pas tout à fait. En effet, pour le chef des conjurés, cette histoire ne fut qu'à demi-fiasco, un demi seulement, car avant de retourner, non pas à Verdun, mais à l'Île-Dieu, trop précipitamment quittée, la dépouille du maréchal allait être déposée le temps d'une courte halte, la nuit, dans la chapelle de l'hôpital militaire du Val-de-Grâce. Là, au petit matin, avant de rejoindre l'aéroport de Villacoublay, le cercueil reçut un hommage militaire. Tout ceci n'aura officieusement pas été vain, mais il était grand temps qu'on en finisse avec cette histoire.
3 jours après avoir disparu du cimetière de l'Île-Dieu, le cercueil du maréchal Pétain y a été ramené ce midi. Le cercueil était arrivé en hélicoptère en présence du préfet de la Vendée, de magistrats et de policiers. Des anciens combattants formaient une haie d'honneur. Un cortège s'est formé, précédé de drapeaux tricolores. Il y avait aussi des gerbes de fleurs. Et sur la cravate tricolore de l'une de ces gerbes, on lisait « Le président de la République ». Après d'ultimes prières, le cercueil a été replacé dans le tombeau à 14h35.
Cette affaire pourrait s'arrêter là. Et d'ailleurs, Michel Dumas, elle va s'arrêter très rapidement. Puisque le samedi 24 février, le juge d'instruction vous convoque dans la matinée. Et puis vous apparaissez et vous quittez son cabinet très rapidement.
Oui.
Libre.
Absolument. Et puis lui, dès le départ, il m'a dit, voilà, il était, je sais pas, il est 10h. Vous avez un train pour Paris à 11h. Je serais content que vous le preniez.
C'est comme ça que ça se passe.
Absolument. Dès le départ. Après, il m'a dit, bon, bah, si vous reconnaissez les faits, bah, j'avais pas les nier, hein, bah, si vous reconnaissez, vous signez le PV, bah, comme ça, j'aurais pas à vous reconvoquer pour faire la même chose. Puis comme ça, j'ai pris le train et puis bon bah.
Elle résonne comment aujourd'hui, Michel Dumas? Là, on est au milieu des tombes du cimetière de Thiers que vous avez tant fréquenté.
Comment je résonne? Bon, qu'est-ce que vous voulez? Moi, c'est une chose. Bon, ça a été, dis donc, un geste d'amitié. C'était un peu un challenge.
Et puis c'était marrant?
Follement.
C'est avec sourire, Philippe Tesson, que vous nous avez vu arriver dans votre bureau en exhumant cette rocambolesque affaire de 1973.
Écoutez, je dois vous dire que je n'y pensais pas jour et nuit. Vous m'avez ramené à une réalité historique qui est assez pittoresque et qui, sur le moment, parce que je faisais un quotidien, a rempli ma vie pendant une journée ou pendant deux ou trois jours, et puis que c'est vrai, j'avais complètement oublié. Ça nous paraît si loin. Tout ça, c'est l'écume des choses, c'est l'écume de l'histoire, mais sous l'écume, on sait ce qu'il y a. Il y a la mer, et puis au fond de la mer, il y a les fonds sous-marins. C'est exactement de ça qu'il s'agit. Demain, il peut encore y avoir un truc comme ça, complètement idiot. Si on n'avait pas retrouvé les auteurs du fait divers, et s'il ne s'était pas avéré que c'était de joyeux farceurs, enfin des oseaux un peu ridicules, à ce moment-là, il est certain que la chose aurait influé sur le résultat des élections. Car l'émotion se serait développée dans le pays, les pétainistes ou les conservateurs ou les réactionnaires auraient relevé un peu la tête, la campagne pour les législatives aurait certainement pris comme point d'appui, notamment, aurait soulevé ce problème, on aurait fait une campagne autour du transfert des armes. Mais trois jours après, c'était fini. Donc, le fait divers restait, mais la dimension du politique du fait divers se dégonflait automatiquement. Alors, ne m'en veuillez pas le soir même de m'être excité pour trois jours après, évidemment, revenir à la raison et dire « Bon, finalement, tout ça, c'est une sinistre farce. » Car il ne s'est agi que d'une sinistre farce, bien que cette sinistre farce avait en sous-jacence, en contrepoint, en profondeur, une signification politique.
Quand la petite histoire frappe à la porte de la grande.
Il n'y a qu'une histoire. Hein. Il y a la petite et puis il y a la grande, mais c'est la même. L'une signifie l'autre, la première signale la deuxième, la deuxième renvoie à la première, etc.
Non, pas du tout. Pour moi, ce n'est pas de la petite histoire.
Marc Ferro.
C'est un des éléments de la grande histoire qui témoigne de la pérennité de la fidélité d'un certain nombre de gens qui s'appuient sur une partie de la population à ce qu'incarnait Pétain, n'est-ce pas ? Et naturellement, des faits de ce genre réveillent chaque fois la guerre civile française, n'est-ce pas ? En fait, c'est pas de la petite histoire, c'est un incident mineur dans notre grande histoire qui est de la guerre civile entre gauche-droite, entre dynamique et au contraire rétrécissement sur soi. Et d'une certaine façon, ce petit incident, n'est-ce pas, qu'on a un peu oublié aujourd'hui, n'est-ce pas, n'est qu'une survivance. Mais il y en a eu d'autres depuis, n'est-ce pas? Et ça ressurgira encore, parce qu'il y a des familles spirituelles en France qui existent, qui survivent, n'est-ce pas? Et de temps en temps, elles se manifestent.
Maréchal, les voilà, ou l'improbable permission du maréchal Pétain. Avec Michel Dumas, auteur de La permission du maréchal, trois jours de maraude avec le cercueil du maréchal Pétain, publié en avril 2004 chez Albin Michel, Hubert Massol, chef du commando en 1973, Marc Ferro, historien, Philippe Tesson, journaliste, chroniqueur, ainsi que des extraits des archives de l'INA, exhumés par Philippe Chalinier. Prise de son, Isabelle Limousin, réalisation Gilles Davidas, un documentaire proposé par Alexandre Hérault.
Une histoire particulière, c'est fini. Je vous retrouve samedi prochain à 13h30 pour un bond en arrière dans le cinéma des années 20. Mais c'est une autre histoire.